Et notre invité ce matin dans le 8:30, Patrick Lévesque, nouveau président de la Fédération régionale des exploitants agricoles PACA. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été récemment élu pour succéder à Jean-Paul Comte, le maire de Malmoisson. À vos côtés, comme secrétaire général, eh bien, il y a Laurent Depié, qui est président de la FDSEA des Alpes-d'Haute-Provence. Tout d'abord, Patrick Lévesque, avec cette crise du coronavirus, comment vont les exploitants agricoles? En mai dernier, près de 9 agriculteurs sur 10 estimaient redouter cette crise sanitaire et notamment un impact économique durable. D'autres voyaient plutôt que leur métier était revalorisé auprès des Français. Finalement, qui avait tort, qui avait raison?
Je crois que c'est un petit peu des deux. Je crois d'abord que, évidemment, le métier s'est revalorisé par rapport aux Français, puisque nous avons su assumer, pendant la crise du Covid, bien entendu, l'alimentation des Français, c'est-à-dire qu'on a rempli les assiettes alors que les frontières étaient fermées. Donc je pense que les Français nous en sont reconnaissants, et en même temps, il est clair que le Covid a eu des impacts sur certaines exploitations, notamment celles qui font de l'événementiel, ce qu'on appelle l'événementiel, c'est-à-dire qui reçoivent par exemple des touristes sur les caves particulières, les manades qui travaillent beaucoup avec le tourisme. Donc en fait, on a des exploitations qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment celles qui en fruits et légumes. Les caves coopératives vont pas trop mal pour le moment, mais c'est surtout ces exploitations d'événementiel qu'on considère qui ont perdu à peu près 80% du chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est le Covid, je dirais qu'au niveau économique, c'est un petit peu mitigé entre ceux qui ont tiré leur épingle du jeu et ceux qui malheureusement ont encore des difficultés, qui vont s'aggraver d'ailleurs avec la nouvelle vague du Covid.
Alors vous le disiez, on a rempli les assiettes alors que les frontières étaient fermées. Et c'est vrai qu'on a vu des supermarchés être à bout de leur stock parce que les importations n'étaient plus possibles. Et forcément, ce sont les exploitants locaux qui ont pris le relais. Mais est-ce qu'à terme, est-ce que vous pensez que ça va permettre de définir des conditions de production plus justes et plus souveraines?
Bah écoutez, je pense, il me semble quand même que le gouvernement aussi a pris la mesure des choses, à savoir qu'il faut qu'on produise en France, ça me paraît important. On avait oublié un petit peu la nécessité de produire en France, en allant beaucoup trop sur le tourisme et en évitant finalement de produire, et que ce soit d'ailleurs dans l'agriculture ou que ce soit dans l'industrie. Donc il faut revenir, je dirais, un petit peu au plancher des vaches. Il faut à nouveau produire dans notre pays pour avoir une certaine souveraineté, qu'elle soit alimentaire, mais aussi qu'elle soit industrielle. On a bien vu avec les masques ce qui s'est passé. Donc je crois que le gouvernement a pris, il me semble-t-il, la mesure des choses. Et il faut aussi que nos concitoyens se disent qu'en consommant des produits français, eh bien, ils assurent la souveraineté de leur pays, mais en même temps, ils s'assurent aussi des emplois et aussi des conditions sociales qui sont ennuyées, je dirais, dans le monde entier.
Vous le disiez, je pense que le gouvernement a pris la mesure des choses et c'est vrai qu'il y a eu des annonces qui ont été faites dans le plan de relance. 1 milliard 200 millions d'euros dédiés au volet consacré à la transition agricole, à l'alimentation et à la forêt pour préparer l'agriculture de demain. Une somme qui est conséquente, qui est suffisante?
C'est quand même une somme qui est conséquente. On est en train justement de mettre les outils en place pour pouvoir accéder à cette somme, parce qu'encore faut-il accéder à la somme. Je dirais qu'on a besoin de matériel qui répond aujourd'hui aux nouvelles exigences, notamment de protection de l'environnement. Je pense aux matériels de traitement, notamment, qui permettent de diffuser beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc à partir de là, on est en train de travailler dans les chambres d'agriculture, notamment, sur la façon dont on va pouvoir monter des dossiers pour pouvoir accéder à ces aides-là. Oui, je pense que c'est une somme qui est quand même, me semble-t-il, conséquente.
Il y a un autre axe qui a été fixé par le gouvernement, assurer le renouvellement des chefs d'exploitation alors que 50% vont partir en retraite dans les 10 prochaines années. Comment on parvient à assurer la relève et à rendre un peu, j'allais dire, sexy le métier d'exploitant agricole?
Je crois qu'il faut offrir aux jeunes, d'abord, bien sûr, des exploitations qui soient viables. Donc, si vous voulez, la profession, notamment à travers les chambres d'agriculture, essaye de par tous les moyens, je dirais, de transmettre des exploitations, de faire en sorte que des exploitations soient viables, à travers, donc, je dirais, les différents organismes que nous avons mis en place au fil du temps. Je pense à la SAFER, notamment, qui a un rôle important dans, je dirais, la transmission des terres et aussi le fait de maintenir le prix des terres à un prix acceptable pour les plus jeunes, pour pouvoir accéder aux fonciers. Mais je pense aussi que si on leur transmet des exploitations viables, encore faut-il qu'elles soient vivables. Parce que il est clair qu'il y a une évolution aussi parmi nos jeunes qui souhaitent vivre un petit peu comme tous les jeunes de notre pays, avoir ben, évidemment la possibilité aussi de prendre des congés lorsque c'est nécessaire, parce qu'on en a besoin. Donc, vivable et viable. Voilà, c'est vraiment deux mots importants à retenir. Donc, évidemment, on a, un objectif qui est démesuré, finalement. C'est 50% de nos exploitations, de nos exploitations qui vont perdre leur chef d'exploitation. Comment fait-on pour faire en sorte d'attirer des jeunes? Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est attirer les jeunes dans la profession agricole. Et je crois qu'il faudra mettre les moyens importants, hein, je dirais. Et nos concitoyens, s'ils consomment des produits français, peuvent aussi, contribuer à cet élan nécessaire. Parce que sinon, demain, on aura des friches. On aura des paysages qui ne seront plus respectés, et respectueux d'ailleurs, aussi de l'environnement. Ça sera la friche. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif de demain que doivent avoir les pouvoirs publics, mais aussi la profession.
Comment on maintient, comme vous le disiez, un prix acceptable au niveau des terres, puisque en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le prix moyen de l'hectare libre atteint 10 300 euros. C'est le prix le plus élevé de toutes les régions françaises. C'était en 2019.
Oui, c'est exact. Donc on a des prix qui ont tendance à monter. Bon, évidemment, on est bien souvent sur des terres qui ont des rapports quand même plus importants que peut-être le reste de la France. Mais c'est vrai qu'on a des prix qui montent sans cesse. Donc je crois qu'il y a des choses à faire. Notamment, on attend une loi foncière que l'État doit mettre en place. Nous avons participé à son élaboration, du moins à sa réflexion, à travers les deux députés qui avaient été désignés pour être rapporteurs du gouvernement. On attend toujours cette loi foncière. Cette loi foncière, elle doit avoir un but important aujourd'hui. C'est notamment, et je le dis, de permettre à la SAFER d'exercer son droit de préemption, même dans le cadre des sociétés qui sont transmises. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'une société est divisée, la SAFER ne peut pas avoir ses droits de préemption. Et les terres, évidemment, sont vendues, des fois aussi, à des propriétaires, qui ne sont pas des propriétaires fonciers, mais qui sont des gens qui placent de l'argent. Et là, c'est ce qui fait monter le prix des terres. Donc je crois que la loi foncière, ça me paraît important. Que la SAFER, qui est un outil qui a été mis en place pour la profession, puisse accéder, puisse exercer ses droits de préemption et la totalité de ses droits sur ce type de transaction. Voilà, une loi foncière, ça me paraît important. Et puis aussi le schéma régional, qu'on appelle le SRADET, donc, qui doit avoir une ambition plus forte peut-être que celle qu'il a aujourd'hui, de protéger les terres agricoles, surtout lorsqu'on a notamment des départements qui sont très urbains, par exemple comme les Bouches-du-Rhône, où on a 80% d'urbanisation. Donc protéger les terres agricoles, ça me paraît être pour demain une nécessité même d'intérêt général.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi actuellement que les métropoles, que les agglomérations se dotent d'un service foncier au détriment de la profession? Par exemple, du côté de la métropole de Nice, 6 millions d'euros ont été mis sur la table sur le foncier pour avoir l'autonomie des cantines scolaires.
Oui, alors là encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a des chambres d'agriculture. Je pense que c'est important que les agglos, notamment, pense que nous avons dans les chambres d'agriculture des personnes qui sont expertes en la matière et qui ont des capacités à accompagner des projets. Alors, c'est pas tous les départements ou pas toutes les agglomérations qui se comportent de la sorte. Moi, je suis président dans les Bouches-du-Rhône. Je vais vous donner un exemple. Nous travaillons beaucoup avec les collectivités qui viennent nous demander notre science, si je peux m'exprimer ainsi, agricole, sur des projets, que ce soit des projets d'aménagement, que ce soit des projets d'alimentation. On a un plan alimentaire territorial dans les Bouches-du-Rhône qui est en fait initié aussi par le conseil départemental. Voilà, des choses que l'ensemble des maires doivent comprendre, ou les responsables d'agglomération. Nous avons la possibilité, dans les chambres d'agriculture aujourd'hui, avec nos conseillers qui sont des experts, de les accompagner. Il n'est pas nécessaire de se doter je dirais, de services qui viendraient doubler les chambres d'agriculture.
Dernière question, une question qui nous vient d'un auditeur. Bruno, la régionalisation des chambres d'agriculture, qui était une condition de leur maintien, est-elle toujours d'actualité ?
Alors oui, bien sûr, il y a toujours cette idée de régionaliser les chambres d'agriculture. Je pense que ça devra se faire dans le temps, peut-être avec si la diminution du nombre d'agriculteurs est importante. J'espère que non. Franchement, j'espère que non. J'espère qu'on réussira justement à faire en sorte que nos terres soient reprises par des jeunes, que toutes les exploitations soient reprises. Et à ce moment-là, il faudra toujours des chambres d'agriculture quand même départementales, parce qu'il faut être quand même auprès de nos agriculteurs, avec nos conseillers, pour les aider au maximum, compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui, qui sont très importantes quand même.
Merci beaucoup Patrick Lévesque d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la Fédération régionale des exploitants agricoles PACA.